Troisième méditation du lundi. Pas de paix universelle sans le prince de la paix. À cause du péché originel, des péchés personnels de chacun, de l'action des mauvais anges et des précurseurs de l'Antéchrist, l'homme est beaucoup plus porté à être un loup pour l'homme qu'un frère, et cette triple cause d'égoïsme, de haine et de crime ne sera jamais vaincue tout à fait qu'à la fin des temps, par le retour en gloire de notre Seigneur. Elle ne peut l'être partiellement que par ceux qui l'aiment et aiment leur prochain à cause de lui. Il n'y aura jamais de fraternité humaine que celle qui sera identique à la charité chrétienne. Il n'y aura jamais de paix universelle sans le prince de la paix. Après cela, le Seigneur en désigna encore 72 autres, lisons-nous dans l'Évangile, et les envoya devant lui, deux à deux, dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Cette prescription ne se comprend bien qu'à la lumière d'une autre parole de Jésus. Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Cette promesse est impressionnante. Quand deux ou trois sont réunis au nom de Jésus pour prier, par exemple, pour étudier, pour faire son œuvre, c'est le cas d'une communauté religieuse, mais aussi de deux époux catholiques, Jésus est là, vivant et œuvrant en eux et à travers eux. La communauté chrétienne, même réduite à sa plus simple expression de membres, n'est pas une vague association humaine. Elle est un corps uni à sa tête, Jésus. Elle est une miniature de l'Église, une mini-chrétienté. Elle participe donc de sa fécondité. Lorsque saint Dominique établissait un couvent au cœur même de l'hérésie, il entendait y faire le corps mystique de Jésus avec sa tête. Il appliquait à la source du mal le seul remède, le seul sauveur, le Christ total avec ses membres. C'est en créant partout des fortins, des castillos de la sainteté, des mini-chrétientés dont Jésus est au centre, la source de vie, que l'on détruira les forces du mal et que l'on reconstruira la chrétienté. C'est dans la mesure où chacun retrouvera sa fierté d'être au service de Jésus-Christ et de son Église que le royaume de Dieu s'étendra sur la terre. Le 21 mars 1917, une humble paysanne, Claire Ferchaud, était introduite au palais de l'Élysée dans le bureau du président Poincaré. Elle venait de la part de notre Seigneur demander au président de mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau français, acte qui sauverait la France. « Le président se fit accueillant », écrit-elle. Ensuite, son visage, toutefois, contenait un certain trouble. Je vis dans ses yeux une sorte de peur mal dissimulée. Sa voix avait quelque chose qui tremblait. L'impression morale qui me reste de mon vis-à-vis avec la personnalité française la plus haute est celle-ci. Le sentiment éprouvé sur sa faiblesse, son écrasement devant qui eût osé imposer une force supérieure divine, ne m'a pas quitté après les nombreuses années écoulées depuis cette circonstance. J'ai touché du doigt, dit-elle, que dis-je, j'ai palpé de mon âme l'extraordinaire faiblesse de l'homme menée par les forces démoniaques. Elle parle du président de la République. Il reste le peureux, le néant. Et je pleurerai toujours sur la lâcheté des chrétiens, sur l'inertie des catholiques, sur la déférence des ministres du culte sacré devant cette poignée d'agents au service du démon. L'enfer n'a de force qu'autant que nous la lui procurons par la peur que nous avons de ses menaces. Si nous savions nous dresser d'un fier courage, le combattre d'une énergie farouche, le regarder en face sans perdre un pouce de terrain ni de sérénité dans notre vouloir de le vaincre, comme il s'enfuirait se cacher dans son antre honteux de sa défaite. Demandons à Marie de retrouver notre courage et notre zèle au service du Christ-Roi pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.